France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller voir la DRDDR du seul en scène d'un comédien humoriste qui a mis du temps à démarrer sa carrière, mais qui s'est bien rattrapé depuis qu'il a décidé de ranger son costume d'avocat. Tout lui réussit, cinéma, théâtre, télé, doublage, bref. On est avec François-Xavier Demaison, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bien, alors, comment s'apprête-t-on à faire rire deux Olympias qui sûrement afficheront complet? Les Vénards qui iront vous voir ont-ils droit à des inédits? Comment va le théâtre de l'œuvre dont vous êtes le directeur artistique? Quels sont les projets sur grand ou petit écran de notre invité? Est-ce que c'est pas énervant de devoir régulièrement raconter qu'on a été auditeur chez Pricewaterhouse, puis collaborateur senior en fiscalité chez Landwell et oui. associé à New York, et que suite au choc du 11 septembre, on a enfin choisi de réaliser son rêve de devenir comédien, ça on vous le demande à chaque fois. Eh ben, on va vous le demander encore, toi, aujourd'hui. On veut tout savoir. Non, ça va, c'est pas trop énervant de rappeler à chaque fois cette histoire?
Ben, c'est oui, vrai que ça me paraît tellement loin maintenant. C'est vrai, ça fait plus de 15, bah oui, bientôt 20 ans.
Déjà?
Bah oui, 2001.
Mais vous étiez un gamin à New York.
Bah oui.
C'est quoi,
bah,
c'est
oui.
une grande ville?
Mais oui, c'est
si
vrai que
tôt.
J'ai l'impression d'avoir plusieurs filles déjà.
Non, mais c'est, en fait, je pense qu'on vous le redemande à chaque fois parce que ça fait rêver tout le monde de se dire.
Oui, c'est vrai que c'est une histoire positive, c'est le changement de vie, c'est dans l'air du temps. On a tous envie de changer de vie, de suivre ses rêves. Alors, c'est vrai que moi, ça s'est bien passé plutôt.
Faut être quand même
donc, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà.
Question essentielle pour commencer. Est-ce que, comme beaucoup de François-Xavier, on vous a surnommé FX?
Oui.
Ah oui, toujours.
Oui, ça, j'aime beaucoup.
Ouais, c'est mieux.
C'est affectueux, c'est sympa, j'aime bien.
Bon, tant mieux. Alors, encore une question essentielle. Les 18 et 19 avril prochains, vous jouerez pour la dernière fois votre seul en scène. Un seul en scène que vous avez débuté, donc en quelle année?
Eh ben, écoutez, 2016.
Ouais.
Ça fait 230 représentations en tout. dont déjà 10 Olympiens.
Oh, voilà. Oh la vache, j'ai envie de dire, c'est
ouais.
bien ça. Hein
ouais.
Après tant de représentations, vous en êtes où vous, au niveau du trac avant de rentrer sur la scène?
Écoutez, toujours un peu, c'est jamais la même chose, hein, c'est ce que je dis souvent, j'ai l'impression de servir le même menu mais avec des invités différents. Donc j'ai toujours le petit trac quand il sonne à la porte.
C'est marrant parce que le trac c'est très difficile à définir, physiquement vous ça fait quelque chose ou pas? Ça se traduit par un tic nerveux, certains vomissent,
d'autres
font
dans leur culotte. Rien de gastrique,
ça,
ça reste très, très intériorisé.
La comédie, la scène, c'est votre base, on le sait. Quand on se retrouve sur cette fameuse scène de l'Olympia, la première fois, est-ce que ça laisse un souvenir particulier, puisque, a priori, tout le monde parle de l'âme de l'Olympia?
Oui, c'est vrai, moi, c'est une salle que j'adore. D'ailleurs, ce spectacle, je ne l'ai joué qu'à l'Olympia, à Paris. Donc, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir m'installer comme ça, dans cette salle que j'adore. C'est vrai qu'il se passe quelque chose, il y a un rapport, c'est une salle qui est extraordinaire. Moi je trouve que voilà, 2000 personnes, c'est vraiment le grand maximum pour ce qu'on fait, nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur mon visage. Et mon premier Olympia, je crois que c'était en 2007 ou 2000, ouais c'est ça, 2007, 2008 peut-être.
Pas en première partie de quelqu'un, vous
non,
avez
non,
toujours été
c'était mon premier
direct,
Olympia, ouais, bien, ouais c'était quelque chose, ouais, ça m'a... C'était mon premier spectacle et c'était au moment où j'avais fait Coluche. Voilà.
Ah oui, donc là, évidemment, c'était bourré à craquer. Et est-ce que vous aviez des souvenirs particuliers de spectacles que vous aviez vu justement à l'Olympia?
Oui, j'ai vu des grands spectacles. J'ai vu, moi je suis très fan de variété, j'ai vu Serge Lama deux fois, que j'adore. J'ai vu Gad Elmaleh, j'ai vu...
Même petit, vous alliez à l'Olympia? Enfin, petit,
petit, j'ai pas beaucoup de souvenirs petits à l'Olympia. Mes grands-parents, ils m'emmenaient surtout au théâtre, mais oui, j'ai dû y aller une ou deux fois, mais je ne sais plus. Oui.
C'est pas grave. Vous avez toujours eu envie d'être comédien, on le sait, vous l'avez suffisamment rencontré, d'être face à des gens qui vont pouvoir, donc, pendant, je sais pas, une heure et demie, deux heures, vous observer, vous écouter, réagir à ce que vous leur transmettez en émotion. C'est bizarre, ça, quand même, comme truc. Non, vous avez compris pourquoi vous faites ça? Vous allez tout seul sur une grande scène?
Oui, je crois que ça relève de la psychanalyse, on va pas se mentir, hein. Il y a une envie d'être aimé, sans doute, une envie de recevoir de l'amour de manière un peu abyssale, quoi. C'est sans fin. Je crois que c'est la clé de voûte de ma vie et de mon équilibre aujourd'hui, la scène.
Alors, pourquoi ce seul en scène est-il un vrai succès? Que raconte-t-il? Quels sont les sujets qui inspirent notre invité et son équipe d'auteurs? C'est important, on va en parler juste après ça.
France Bleu Paris. France Bleu.
Viens là. Viens, viens avec moi.
Les yeux noirs, Indochine sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Bon, bah vous les aviez, les albums d'Indochine, François-Xavier.
Oui, ça me rappelle ma jeunesse, quand j'avais des cheveux et un peu moins de ventre, voilà.
35 films au cinéma, 3 seuls en scène, plusieurs téléfilms, une nomination au César, et tout ça en 14 ans. C'est assez court quand même, hein. C'est un parcours en résumé de notre invité aujourd'hui, François-Xavier de Maison. Il est en tournée et sera notamment à l'Olympia pour les dernières, de son seul en scène, le 18 et 19 avril prochain. Il y a des dates dans notre région, comme par exemple, alors Verneuil, c'est complet vendredi, Garges-lès-Gonesse, c'est samedi prochain, 16 mars. Précisément, si vous êtes dans le coin, c'est l'espace Linoventura à Garges-lès-Gonesse. François-Xavier y sera donc samedi soir. Le 23, il est en cours, c'est plein. Et le 18 et 19 avril à l'Olympia, on a tout dit ou presque. Combien de gens ont vu ce spectacle à 12 près?
Oh, c'est une question piège, je sais pas.
Bon,
si on calcule 230 représentations, oh là là. 1000, entre 1000 et 500 personnes à chaque fois.
Ouais,
ça doit être, 150 000.
Pas mal du tout, tout ça. Ouais. Bon, il reste quelques spectateurs qui n'ont jamais eu la chance ou l'occasion de voir ce spectacle. Ce sont des gens tout à fait respectables. Et d'ailleurs, j'en connais un très bien. Et c'est moi. Comment décrire ce que vous faites sur scène, vous, François? On connaît tous des pleins d'extraits à la télé, sur Internet.
Oui, alors c'est très peu représentatif ce qu'on voit sur Internet parce que c'est vraiment des petits extraits sortis de leur contexte et c'est généralement une histoire. Moi, ce que je raconte, c'est je me promène comme ça dans. Là, ce thème, c'est les régions. C'est vraiment, je traverse c'est la tournée. Donc je traverse les régions de France, je rencontre à chaque fois des gens, ça va d'un homme politique sans aucune ressemblance. Je vais voir mes parents, je suis avec ma fille et voilà, ça se termine à New York, donc ça me permet de faire vivre des personnages qui souvent racontent un peu l'époque, et puis je me raconte au public, et puis je joue avec le public, je prends beaucoup de plaisir à rentrer dans le public, à jouer avec le public, et c'est un spectacle qui me rend très très heureux, voilà, vraiment.
Qui parle de vous et de gens que vous avez peut-être éventuellement croisé, justement.
Oui, qui parle de tout le monde, finalement. Ouais, ça, c'est universel. Ouais. On n'est jamais aussi universel que quand on parle de soi, finalement.
C'est vraiment aussi parfois des gens que vous avez vraiment croisés qui vous ont inspiré.
Ah oui, bien sûr. Je prends des petites photos des gens qui m'entourent et je mets plus ou moins de temps à les développer, mais c'est la réalité est souvent au-dessus de la fiction, parce qu'il y a vraiment des phénomènes, quoi.
Et ce que vous aimez beaucoup aussi, ce sont les personnalités, mais avec les accents qui vont aussi avec.
Hein. Oui, c'est ça. C'est les Américains. Il y a effectivement cette Américaine qui a une maison d'hôte à New York, qui est complètement cinglée.
Une Américaine?
Oui.
Elle est
oh my God, just amazing. I love you, Lauren. You're an amazing person. I love you. You're amazing.
Oui, c'est vrai. C'est clair.
C'est toujours dans la nuance, les Américains.
Chaque humoriste.
Jamais excessif.
Oui, oh oui. Chaque humoriste a ses tubes. On dit pour un chanteur, ce sont des tubes, bon bah vous ce seront des sketchs évidemment, que le public réclame. Si vous les faites pas, vous risquez le lynchage sur scène. C'est quoi vos 2-3 tubes inévitables?
Il y a des sketchs qui plaisent beaucoup, Darwalou, ce couple qui a tout plaqué pour créer une maison d'hôte et un spa à Marrakech et qui a asséché la région, du coup ça plaît beaucoup. Il y a le petit castor mais qui n'est plus dans le spectacle.
Fini.
Je me suis réveillé un matin et puis j'ai vu des cheveux blancs, je me suis dit il faut que t'arrêtes de faire le castor. voilà, c'est fini. C'est plus de ton âge.
Ça plaisait bien au petit, ça plaisait bien au grand. Hein,
oui, bah c'est gentil.
D'accord. Mais... Et il y a un autre ou deux que vous refaites obligatoirement là?
Non. Là, c'est vraiment de la nouveauté. D'accord. C'est vraiment des nouveaux personnages. Donc voilà, à l'exception d'une petite duche avec les cupins.
Ah.
Voilà, ça c'est un sketch, c'est un voyant ma sœur, mais bon je peux pas en dire plus.
Un voyant ma sœur.
Antenne de France Bleu.
Voilà. Non mais c'est pas grave. Alors on va dire que vous travaillez en équipe, hein. Je voulais citer que vous travaillez toujours avec Eric Théobald et Michael
Quiroga et mon ami de toujours, Samuel Le Bihan.
Voilà.
C'est l'équipe du début.
Toujours dans l'équipe, Samuel.
Oui, toujours, c'est mes meilleurs amis, hein. C'est l'équipe avec qui j'ai démarré, avec qui je suis toujours. Et d'ailleurs je suis assez fidèle aussi même au niveau de mon équipe technique puisque j'ai les mêmes techniciens depuis 8 ans. Donc voilà, c'est ma petite troupe.
C'est
un seul en scène, mais je suis pas tout seul.
Et Samuel Le Bihan fait partie des gens qui peuvent également vous inspirer un sketch ou vous aider à écrire un petit truc.
Oui, bah, il m'inspire lui déjà. Un sketch, rien que Samuel, ça inspire. Non, il fait partie du spectacle. Oui, je raconte les débuts où il voulait absolument me faire jouer dans des salles très grandes de 700 personnes, et puis bah il y avait personne. Hein, voilà. Donc
bon, on va rappeler que quand vous êtes revenu de New York, effectivement, c'est une des premières personnes qui vous a guidé, orienté vers une salle. Vas-y, lance-toi, écris.
C'est ça. Ça a été un vrai parrain et il m'a même produit à mes débuts. Mais si j'étais pas tout à fait acteur à l'époque, lui il était pas du tout producteur par contre.
Mais d'ailleurs, vous vous connaissiez comment?
un coup de cœur. Il est venu un jour me voir sur scène et il m'a dit, je vais te produire, je vais t'accompagner. Et ça fait bientôt 20 ans et on se quitte plus, on est les meilleurs amis du monde.
La télévision, le cinéma vous offre depuis longtemps des rôles assez divers, variés, comédie, mais pas que. On a bien sûr tous en mémoire, on l'a recité il y a un instant, ce rôle où vous incarniez Coluche dans le film Coluche, l'histoire d'un mec. Est-ce que c'est ce film qui a changé le regard des spectateurs, le regard des réalisateurs, des producteurs de cinéma et qui fait que encore aujourd'hui vous recevez presque tous les scénarios de films français en projet?
Disons qu'en tout cas, ça m'a permis, oui effectivement, ça a été un accélérateur.
Ouais.
C'est vrai que j'avais fait une ou deux petites participations dans des films avant Coluche, mais d'être nommé au César du meilleur acteur pour un premier rôle principal, ça a accéléré. J'ai ensuite enchaîné avec Tellement Proche, de Nakash Toledano, des grosses comédies comme La Chance de ma vie qui ont marché, ou comme Le Petit Nicolas, et là c'est... Voilà, et puis après ça a été des rencontres magnifiques avec des réalisateurs comme Hugo Gélin.
Et Coluche, ce film sur Coluche, ça a vraiment été ça. Hein,
oui,
ça a senti tous, c'est démarrage total.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Après, c'est vrai que sur la longueur, il y en a qui marchent, d'autres qui marchent moins. Mais je le fais toujours avec sincérité, en tout cas. Et puis, c'est toujours un bonheur de rejoindre une équipe de tournage.
Pour bien comprendre Coluche, j'imagine que vous l'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié et tout. Là, on parlait de... Je fais le rapprochement, mais c'est vrai, j'y pensais pas. Mais c'est vrai que ce week-end, on a beaucoup parlé des Restos du Cœur. Il y a le concert des Enfoirés et tout. Vous avez compris pourquoi il a eu cet élan? Ça faisait partie de son caractère de s'occuper des autres, cette espèce de générosité de cœur à fleur de peau qui l'a poussé à créer les Restos du Cœur?
Ah oui, je pense. Et puis, il était puissant. Il avait cette espèce de puissance comme ça, à entraîner les gens, de conviction. Donc voilà, je pense que c'est merveilleux ce qu'il a créé. Et ça fait 30 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça fait 30 ans cette année qu'on a fêté également. Ouais. Ici, on était partenaire cette année de ce bel événement.
Bravo.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je disais, vous devez recevoir plein de scénarii, comme on dit, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez aujourd'hui un rôle plutôt qu'un autre?
Si je l'ai pas déjà fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir déjà joué, si je crois dans le talent du réalisateur, puisque c'est quand on va quand même passer un petit moment ensemble, l'histoire, si le personnage m'intéresse, ça dépend des acteurs avec qui je vais le faire aussi,
All Inclusive, le dernier, ce qui vous a fait réagir, je suis sûr que c'est parce qu'il y avait votre poc. Franck Dubosc.
Oui, c'est vrai qu'on s'entend très très bien. Et puis j'avais eu la chance de jouer avec lui dans son premier film en tant que réalisateur, qui est un petit bijou qui s'appelle Tout le monde debout. Effectivement, ça a été un argument. Et puis L'Outsider de Baratier, c'était parce que aussi ça parlait de choses, de l'affaire Kerviel, de choses qui me parlaient,
qui me
touchaient. Donc à chaque fois, il y a une bonne raison en tout cas.
All Inclusive a pas franchement encore, a pas trouvé son public. C'est comme ça, c'est la loi du cinéma.
Il va aller friser le million, ce qui est pas non plus. Ce qui n'est pas non plus déshonorant.
Oui. Non, mais vous savez ce que c'est. Ils se sont plantés parce qu'il n'a pas fait 5 millions en une semaine.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est pas grave. C'est une bonne comédie, puis ça fait du bien et il fait beau dans ce film.
Exactement.
Comment devient-on un incontournable du cinéma français? Comment devient-on un acteur populaire, un humoriste qui remplit toutes les salles de spectacle, une star qui fait hurler le public féminin? C'est vrai, vous faites ça.
Ah
aussi.
Oui,
vous faites ça aussi. Bon, on en parlera dans la suite de France Bleu Paris Découverte, juste après Accès Privé. Alors, c'est un rendez-vous. Chaque jour, on a une reporter qui s'appelle Muriel Jordan qui nous invite à découvrir un lieu inédit. On va écouter ça. Et alors aujourd'hui, pour vous, François-Xavier, Muriel Jordan a rencontré le pédicure des rhinocéros du parc zoologique de Paris.
Oui, écoutez,
ça va vous intéresser. C'est juste après ça.
France Bleu Paris.
C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possible, plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement. Pour qui, mais véritablement seul. que les choses se meurent. C'est ainsi que l'amour s'éteint. Il brûle encore comme il demeure. Brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui. Il durera aussi demain. Dans des regrets endoloris. Dans le foulard des parfums. Seul, définitivement. Balayé par le vent. Savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui, mais véritablement, seul, définitivement, seul, définitivement.
Seul, définitivement, la nouvelle chanson de Marc Lavoine, accès privé, un parc zoologique, c'est juste après ça.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu.
Bonjour tout le monde.
À 16h sur France Bleu Paris, prenez donc Franck Duré en covoiturage.
Voyager grâce à France Bleu Paris, c'est normal. Ce lundi, nous irons faire un tour à l'Olympia pour parler de l'Irlande et de Celtic Legend, le Connemara Tour 2019. Et dans Musique en scène à 18h50, découvrez l'artiste Vanessa Philippe.
Ça vaut le détour sur France Bleu Paris, 16h-19h.
Cette année, c'est décidé, vous voulez changer de boulot. Témoignages, conseils de coach, de DRH et d'actifs qui ont réussi leur reconversion. Venez assister à une soirée exceptionnelle à la Maison de la Radio le 13 mars et échangez directement avec les intervenants. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir avec Le Parisien aujourd'hui en France. Mercredi 13 mars à 19h à la Maison de la Radio. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info.
Avec Dentsu Aegis Network, acteur majeur de la communication et de la transformation digitale des entreprises. Avec Le Bon Coin, l'acteur majeur de l'emploi dans votre région. Rendez-vous sur la rubrique Emploi du Bon Coin.
France Bleu Paris.
Avec François-Xavier de Maison aujourd'hui, je vous emmène au parc zoologique de Paris. François-Xavier, je sais que vous aimez ça. Direction donc les coulisses du parc zoologique qui s'apprête à fêter ses 5 ans, comme vous le savez, le 12 avril prochain. Et Muriel Jourdan, donc notre reporter, en a profité pour se glisser comme une petite souris dans les coulisses du zoo. Alors elle est à côté des soigneurs et particulièrement du pédicure avec les rhinocéros. Voilà ce que ça donne.
Voilà, je suis arrivée et c'est un vrai bonheur que de se balader dans ce parc zoologique puisque il y a personne encore à cette heure-ci. Hein. Vous me recevez avant l'ouverture au public et on se dirige vers un enclos. Vous êtes Quentin, soigneur.
Donc c'est ça. Donc là, on arrive devant le bâtiment du hub. Moi, de mon côté, je vais m'occuper donc l'animal phare, on va dire, de ce bâtiment qui est les rhinocéros.
Bon, on va voir s'ils ont envie de se manipuler ce matin parce que ça doit arriver. Parfois, ils doivent avoir leurs humeurs, ces rhinocéros.
C'est ça. On va avoir des jours sans et avec.
Ah oui, oulala. Ouais, ils sont pas agressifs.
Non, ils sont pas agressifs, mais c'est vrai que des fois, ils viennent juste voir, surtout quand ils connaissent pas les personnes.
Donc qu'est-ce que je fais ?
Bah, vous allez tout simplement passer dans le couloir en longeant plus ou moins le mur sans trop vous approcher des loges.
D'accord, parfait. Il faut pas que je me fasse encorner quand même. Comment il s'appelle lui ?
Donc ici c'est Wami et dans l'autre loge on a Angus. En fait on a deux jeunes mâles.
C'est impressionnant au niveau de la taille. Hein.
Ouais, donc là les deux font à peu près 2 tonnes.
Bon, on est presque prêt là. C'est l'heure de la Comment vous appelez ça? Pédicure, manucure, oui. C'est un peu les deux.
On peut dire pédicure, après nous, globalement, on dit qu'on fait les soins au niveau des pattes.
Comment il s'appelle?
Wami.
Wami. Bon, bah Wami, il est là, c'est un rhinocéros assez conséquent, mais qui va encore grossir, hein, parce qu'il est jeune. Tu peux lui faire une petite caresse ou... Oui. Là? Là?
Bah, oh. Les rhinocéros, au niveau des pliures, en fait, leur peau est plus fine et ils sont beaucoup plus sensibles. En fait, là, ils sentent presque rien, c'est comme du... Au niveau de leur bosse ou de la peau, en général, ça fait un peu comme du cuir.
C'est rugueux.
C'est très rugueux. Mais au niveau des, pliures des jambes et des oreilles, ils sont vachement plus sensibles et ils aiment bien souvent qu'on les gratte à cet endroit.
Donc là, imaginez, hein, vous avez donc un rhinocéros vraiment face à nous qui est assez énorme. On est dans un enclos, enfin
dans les loges.
Ça s'appelle les loges. D'accord. C'est lui qui fait ce bruit?
C'est ça, avec sa corne.
Avec sa corne.
Voilà, il joue avec la porte. Moi, je vais faire mes soins. Donc, nous, on va
passer là.
Bah, je vais vous demander de rester. Si
nous,
vous
on reste là. Parfait.
Et nous, avec ma collègue, on va circuler autour du crush, en fait.
D'accord.
Donc là, dans un premier temps, on va l'appeler. On va faire plusieurs fois des appels et on va le récompenser lorsqu'il répondra, qu'il effectuera bien l'ordre demandé. Ça dépendra aussi de son humeur. On va voir.
Oui, on va voir de quelle humeur il est. Là, en tout cas, il est pressé. Vous entendez, c'est lui, c'est Wami. Là, la porte s'ouvre, le rhinocéros va pouvoir s'installer. Alors d'abord, il dit bonjour à son pote en face, un autre rhino. Et à chaque fois que le rhinocéros réalise quelque chose, qu'il obéit, il y a des petits granulés qui lui sont donnés. C'est sa récompense, c'est un peu comme du chocolat pour nous.
Je vais prendre un repose-pâte. En fait, on a fait confectionner ça par l'atelier et on a commencé il y a peu de temps. Et du coup, on essaie de leur faire poser la pâte sur ce repose-pâte afin de nous pouvoir mieux voir ce qu'on fait, tout simplement, au niveau des pâtes.
Allez, oui, la pâte. C'est bien ça, voilà.
Alors, voilà. Ce Wami, il a vraiment une bonne tête. Il est expressif. Quand on regarde ses yeux, c'est assez impressionnant. Mais il peut aussi faire peur. J'imagine que parfois, il vous en a fait voir.
C'est ça. Des fois, il peut s'agacer même dans sa loge. Des fois, quand il joue entre eux sur l'enclos... C'est assez impressionnant à voir vu qu'ils donnent des coups de corne, donc on a des systèmes en place pour notre sécurité et leur sécurité à eux aussi.
Bah voilà, c'est intéressant, non?
Bah oui, c'est incroyable.
Il y a des gens qui font les ongles des rhinocéros dans la vie.
Bah oui.
Bah pourquoi pas, merci. Bah
écoutez, en tout cas, j'espère qu'il n'y a aucun lien entre le choix du sujet et l'invité.
J'ai cherché, mais il n'y en a pas. Allez, on continue.
France Bleu Paris, découverte.
Si vous nous rejoignez, oui c'est moi. Si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on est avec François-Xavier de Maison qui nous rend visite. Il est en tournée pour un dernier tour de piste avec un spectacle qui a déjà fait mourir de rire des centaines, des milliers de personnes, on va dire. Et qui sera, je le rappelle, samedi soir à Garges-lès-Gonesse, la salle, c'est la salle Lino Ventura. Et puis le 18 et 19 avril à l'Olympia. On va résumer votre parcours parce que encore une fois, moi, ça m'a intéressé de voir un petit peu comment vous avez fait. Vous pourriez arriver. Alors, on va dire que vous avez une maman corse de Saint-Florent. Voilà, il faut aller à Saint-Florent parce que
c'est très très beau. Le Cap-Corse, c'est ce qu'il y a de plus beau.
C'est le plus beau au monde. On est bien d'accord.
Ah, oui.
Même au monde.
Il y a le pays catalan qui est pas mal non plus.
Ah oui, mais quand même. Votre papa vient lui, c'est plus le centre de la France.
Oui.
Famille d'avocats, deux sœurs, un frère, une naissance à Asnières, une bonne éducation, élève dissipé, mais de très bons résultats, à mon avis. C'était ça sur le cahier, non?
Oui, ça va. Je ne voulais pas d'ennui, donc voilà. Je faisais le minimum.
Et puis, ça a mal commencé parce que vous avez fait Sciences Po.
Ouais.
Heureusement, les peluches étaient là dans votre chambre d'enfant. Ce sont vos premières mises en scène. Et puis, les sketchs dans la cour de récréation, le spectacle de fin d'année costumé. Vous l'avez fait, le spectacle de fin d'année costumé?
Ah oui, j'ai fait. On reprenait du Fedo ou du Anou. On avait fait Les Poissons Rouges. On avait fait Occupe-toi d'Amélie. On avait fait. Oui, ça a été les premières grandes émotions scéniques.
Ah oui. Et donc, puis, vous n'avez pas fait le lapin dans les spectacles qu'on fait quand on est enfant à la fin de l'année? Ça, vous ne l'avez pas fait?
Si, mais je m'en souviens plus.
C'est pas grave.
Je pense que j'ai dû le faire.
Alors bon, donc j'ai dit que ça avait mal commencé avec Sciences Po, mais il y a eu quand même les cours Florent qu'on peut recommander à tous ceux qui nous aiment.
Mais bien sûr.
Absolument. Et puis vous avez rassuré vos parents, vous avez fini vos études, vous avez bossé, bien bossé, vous êtes installé à New York, tout ça on connaît l'histoire. Et puis le 11 septembre, choc psychologique, on le comprend. Et là vous dites, et ça c'est un exemple, j'abandonne tout, je plaque tout, je veux être saltimbanque, je reviens à Paris. La suite, on la connaît. Mais au fait, ça a été quoi la réaction de l'entourage, des parents?
Inquiet.
Quand vous vous êtes dit...
Ah oui, au début très inquiet. Et puis je crois qu'à un moment donné, quand ça commence, quand les gens voient que vous êtes heureux de faire ce que vous faites, je pense que l'entourage, le vrai, celui qui vous aime vraiment, ce qui vous aime pour ce que vous êtes, et pas uniquement pour ce que vous représentez, ou voilà, ceux-là, ils sont contents pour vous.
Bon,
très vite.
Mieux. Parce que ça peut être parfois très très mal pris dans certaines familles, on rassure ceux qui nous écoutent. Si votre enfant veut vraiment devenir comédien humoriste, ça va pas être facile.
Non, mais le monde est fou, faut être un peu plus fou que lui. De toute façon, il n'y a aucune certitude aujourd'hui. Il y a tellement d'incertitudes partout. Voilà, la vie est courte mais large, et je pense qu'il faut effectivement aller au bout de ses envies.
Et quand vous étiez petit, vraiment, j'ai lu ça, que vous mettiez en scène vos peluches, comme si vous étiez metteur en scène, je ne sais pas si c'est vrai.
Oui, c'est vrai, je faisais des spectacles avec mes peluches. Ouais. Et effectivement, elles étaient assez peu expressives, quand même. C'était difficile de raconter des histoires.
Si on a un gamin à la maison qui fait ça en ce moment, on peut se dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose.
Mais le jeu de l'enfance, c'est même tous les jeux avec les Playmobil, tout ça, c'est déjà une forme de petit théâtre. Hein. Ouais. On les fait parler, voilà. Après, il y en a qui passent à autre chose. Et puis moi, je suis resté, je fais toujours des Playmobil.
Et vous, petit, vous voyiez sur scène?
Oui, je rêvais de ça. Ah, c'est mon rêve d'enfance, c'est mon envie d'attirer l'attention, de plaire aux filles aussi dans la cour de récré. Hein, c'était pas sur le physique tout de suite que j'ai marqué les premiers points.
Et ça marchait?
Bah,
fait les rires.
Ouais, c'est ça. C'est bon. On dit souvent, fait les rires, c'est la moitié. Voilà, fait rire, il y a 50% du travail qui est fait. Voilà.
Bon. 50%.
Il en restait 50% quand même à faire.
Midi 39. Il est comédien, humoriste, voix de doublage, auteur, sympa. Ah oui, il est sympa.
Bah oui.
Pour compléter le portrait. Bah voilà. J'ajoute qu'il est directeur artistique d'un très joli théâtre parisien, le Théâtre de l'Œuvre. Et ça, c'est intéressant, François-Xavier de Maison.
C'est un très beau lieu, le Théâtre de l'Œuvre.
Eh ben, on va en parler
en Île-de-France
dans un instant.
France Bleu, Paris. France Bleu.
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar.
Maroon 5, Sugar, sur France Bleu Paris.
France Bleu.
Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu.
Direction la Bourgogne pour oublier Manchester United. Le PSG joue demain à Dijon, match en retard de la 18e journée de Ligue 1. Paris survole le championnat mais coule une fois de plus en Ligue des Champions. Coup d'envoi de la rencontre demain à 19h.
France Bleu, supporter du PSG. Vous êtes soucieux de mieux manger ? Plus sain, plus gourmand, plus varié ? France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci, dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Menton, dans les Alpes-Maritimes, avec un producteur d'agrumes d'exception de la Maison du Citron. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
France Bleu.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Il est en tournée tout seul sur scène, faut en profiter car ce sont les dernières représentations, c'est un triomphe depuis plusieurs années. François-Xavier de Maison conclura cette tournée à l'Olympia, je le rappelle, 18-19 avril prochain. Il est avec nous encore quelques minutes pour parler d'un théâtre, un théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Œuvre. Il est à la hauteur du 55 rue de Clichy, dans le 9e. Cité Montier, hein, c'est ça, c'est la petite cité, on rentre,
exactement.
C'est très joli d'ailleurs, c'est très particulier.
Très très beau, c'est un théâtre magnifique, un lieu voilà qui a une histoire avec l'UNIEPO, qui avec Antoine ont vraiment créé le théâtre privé à Paris, quoi. Mm-hmm. Et puis où la troupe du Théâtre de l'Œuvre avait créé au Théâtre de Paris à côté le Uburois.
Uburois, là,
c'est pour ça qu'on l'a appelé le café où on sert des très bons produits de nos terroirs.
Ouais.
On l'a appelé l'Ubu Café.
C'est-à-dire, il y a un petit café à l'intérieur.
En bas, il y a
un petit café en bas.
Là, y a
très sympa,
du très bon vin,
très sympa.
Parce que c'est aussi une de mes passions et du très bon fromage. Voilà, tout ça, c'est.
On vous parle d'un théâtre, on vous promet. Alors donc, vous êtes directeur artistique, directeur de théâtre depuis quelques années.
C'est important le foyer, le petit bar au théâtre pour pouvoir parler de la pièce. Et en ce moment, la pièce, c'est 19h politiquement correct. De Salomé Lelouch, écrit et mis en scène par Salomé Lelouch, avec Thibaut de Montalembert, qu'on connaît dans la série 10%. Il joue l'agent, que tout le monde adore. Et puis avec Éléonore Bernheim, qui est absolument extraordinaire. Ludivine de Chastenay, qui a été finalement nommée au Molière du meilleur second rôle pour cette pièce.
Bien joué.
C'est vraiment un spectacle extrêmement réussi et intelligent.
Et c'est quoi votre rencontre avec le Théâtre de l'Œuvre pour en devenir le
Et c'est
directeurs.
Benoît Lavigne qui me dit voilà, j'ai
ça. Benoît Lavigne, c'est
mon associé, et voilà, c'est un metteur en scène de renom et qui m'en associe au Théâtre de l'Œuvre, et c'est l'envie d'avoir un lieu, et on s'est lancé dans cette aventure qui me rend très heureux depuis 2 ans et demi. On a eu des spectacles extraordinaires et voilà, à la 21h il y a Romain de Fraissinet, qui triomphe, qui est un humoriste très brillant, et puis
jeudi au samedi à 21h.
Voilà,
un mot sur Marina Rollman
qui est aussi une des pépites de sa génération, et on a vraiment le top du top au Théâtre de l'Œuvre. Hein.
C'est une humoriste.
En termes d'humoriste, on a eu Gad Elmaleh, Jerry Seinfeld, Louis C.K. qui sont venus au Théâtre de l'Œuvre. On a eu Jean-Louis Aubert qui est venu 4 soirs faire des concerts acoustiques magiques.
Jerry Seinfeld.
Est venu ? Oui, il y avait Julianne Moore dans la salle.
Non,
mais c'est The Place to Be.
Vous avez vu Julianne Moore en vrai ?
Oui, je l'ai vue. Elle est encore plus belle qu'à l'écran.
Vous lui avez parlé ?
Je lui ai parlé.
Mais vous avez un anglais fluently, alors.
Je lui ai parlé, mais elle m'a pas répondu. Je lui ai proposé une coupe de champagne, elle m'a dit no thank you.
C'est déjà pas mal.
Oui.
Ça peut commencer comme ça. Bon, il y a plein de gens à voir dans ce théâtre. Allez sur le site internet, bien sûr, ça sera plus facile pour voir et pour réserver. Rukiata Kedraogo, voilà,
Tous les mercredis, et c'est aussi formidable. On a plein de spectacles qui viennent comme ça pour une représentation par semaine. Et il y a aussi le spectacle pour enfants.
Ah, c'est important ça, l'école des fables.
Voilà, un très joli spectacle. Donc c'est vraiment un lieu qu'il faut, si vous le connaissez pas, venir découvrir.
Bah, oui.
Et puis il y a vraiment des très très bons spectacles.
C'est trop petit pour vous, il faudrait rester 6 mois.
Non, mais je trouvais que la politesse était quand même de laisser les autres jouer avant. J'occupe déjà ce lieu de fait, puisque je suis directeur, actionnaire de ce théâtre. Ouais. Mais que effectivement, je préfère regarder le talent des autres aussi. C'est parfois très très enrichissant et ça rend plus heureux souvent que de s'occuper que de son nombril.
Est-ce que ça marche ? Parce que c'est vrai que moi souvent je reçois des gens ici qui ou tiennent des théâtres ou jouent dans des théâtres. Et c'est difficile aujourd'hui de rentabiliser un lieu comme celui-là.
Oui, c'est difficile. Il y a des spectacles qui cartonnent, c'est plus difficile. Mmh. Voilà.
Ça va ?
On a eu Denis Lavant dans le sourire au pied de l'échelle d'Henri Miller. Bon, voilà, c'est des spectacles dont on est extrêmement fier. C'est c'est vrai que Scène de la vie conjugale avec Laetitia Casta, Raphaël Personnaz, de Bergman avait cartonné.
Richard Boringer
qui a cartonné. Justice, Camille Cotin, Camille Chamoun, Nedra Ayadi, ça avait aussi très très bien marché. On a quand même pas mal de succès depuis que on a repris ce lieu.
Les Franciliens vont au théâtre quand
on leur propose des projets de qualité, des spectacles de qualité. Les gens se déplacent et puis aiment se déplacer. Le spectacle vivant, c'est la dernière aventure collective.
Bon, alors voilà, allez jeter un coup d'œil. Théâtre de l'œuvre, vous verrez, il y a une belle programmation. Vous êtes, je le rappelle, de retour sur la scène de l'Olympia le 18 et 19 avril. Le prochain film, je crois, en 19...
Il y aura des surprises à l'Olympia.
Il y aura des
gens que j'adore. Je peux déjà vous le dire, il y a Anne Silla qui viendra à un moment donné chanter une chanson extraordinaire.
Sublime,
c'est un pic d'émotion. C'est l'une des plus belles voix de sa génération. Elle me bouleverse et elle me fait ce cadeau de venir chanter une chanson sur la scène de l'Olympia. Il y a des surprises, il y a des acteurs que les gens connaissent, qu'ils adorent et qui sont mes copains, donc c'est pas très difficile
rien
à deviner.
Si c'est des surprises.
Voilà, exactement.
Le prochain film où l'on vous verra, je crois qu'en 2019, c'est Divorce Club de Michael Youn. Ça sort bientôt ?
Ça sort au printemps, je crois. Mmh. Il y en a un juste avant.
Ah,
c'est le film de Anne Jaffery avec Mathilde Seigné qui s'appelle Ni une ni deux. Deux films, oui, qui devraient sortir coup sur coup printemps-été. Voilà.
Et le prochain tournage ?
C'est en ce moment.
Ah, c'est quoi ?
Une série pour TF1, pour Sarah. Ah. Avec Horatica, Audrey Dana, réalisé par Frédéric Berthe. Et c'est un magnifique drame dans la verve de la série que j'ai fait pour France 2 qui s'appelait Disparu.
Très bien.
J'avais adoré faire Disparu et là c'est un peu dans le même style. Voilà.
Voilà, trois petits tours et puis s'en vont. La suite, on l'attend avec impatience. François-Xavier, pour tout le plaisir que vous nous donnez à la télé, au cinéma ou bien sûr sur scène. Merci énormément. Parce que dans énormément, il y a énormément.
Voilà,
il le fait mieux que moi.
Merci Laurent Petit-Guillaume.
Vous comprendrez en allant voir François-Xavier de Maison vendre. Alors vendredi à Verneuil, c'est plein. Garges-lès-Gonesse, c'est samedi soir. Et puis le 18 et 19 avril à l'Olympia, parce que le 23 mars, il est en cours. C'est complet et c'est tant mieux. Merci François-Xavier d'être passé par ici aujourd'hui.
Merci à vous.
France Bleu Paris.